Bonjour à tous, ce soir nous sommes avec Pierre qui va nous présenter ses voyages à vélo et puis que nous allons interviewer. Bon, bonjour Pierre, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous?
Salut Maxime et Lucie. Je m'appelle Pierre, 32 ans. Et je suis rentré dans le monde du voyage à vélo à partir de 2012 où j'ai fait mon premier grand voyage à deux avec un compagnon que j'ai rencontré sur Internet par petite annonce. Et on a décidé d'aller de France en Australie, donc par l'Asie. J'ai un parcours de. Enfin, dans mes études, j'ai fait des études d'ingénieur télécom. J'ai fait un boulot de consultant télécom, mais que j'ai arrêté il y a 3 ans, donc en 2014, pour me consacrer à la musique. Et puis aussi une petite entreprise que j'ai de textile que j'ai montée avec ma copine. Donc je vous fais la chronologie un peu dans le désordre, mais en 2014, donc à l'occasion de. En fait, j'aime bien faire des voyages. Dans les changements de vie, quoi. Donc, changement de vie, j'ai arrêté mon boulot, tout de suite voyage. Puis c'était 2 ans après le voyage en 2012, donc j'ai fait France-Maroc en solo. Donc c'était ça la nouveauté, c'était d'essayer le voyage tout seul. Et puis comme tout voyage, ça finit par te manquer au bout de quelques années, donc il faut que je reparte régulièrement. Donc 2017, là je reviens d'un voyage de 3 mois pour découvrir l'Amérique du Sud, donc Lima, Santiago, avec tous les beaux paysages que j'avais vus d'Amérique du Sud. Je les ai enfin parcourus à vélo. Voilà ma carrière de voyageur à vélo jusqu'ici.
D'accord. Et du coup, tu disais premier voyage en binôme avec une personne que tu connaissais pas avant, alors.
Ouais.
Ça s'est bien passé, du coup, vous aviez les mêmes envies.
Eh bien, donc pour être plus précis, j'avais très envie de voyager. Je pense comme tout voyageur, comme tout premier voyage, c'est une envie, un besoin, quoi. Il fallait le faire, ce voyage d'un an. Mais je voulais le faire d'abord avec mes amis. Et puis finalement, ça s'est pas fait à cause de chacun sa vie, quoi. Et donc, moi, j'avais quand même très envie de le faire, un premier voyage à vélo d'un an. J'ai cherché sur Internet, j'ai rencontré un premier mec j'ai rencontré beaucoup de gens, mais il y en a un avec qui ça a bien collé. On s'est dit, on va le faire, on va aller en Australie. Et puis on s'est dit, et si on, enfin, ce serait bien de partir avec un autre quand même. Parce qu'on ne se connaît pas si bien que ça et c'est peut-être mieux d'être à trois au cas où il doit y avoir des séparations. Et donc on a rencontré un troisième et donc on est parti à trois. Mais au bout de 2 mois, même l'équipe a été à cinq à un moment. On a rencontré une fille qui a rencontré un mec aussi. Au maximum, on a été cinq quand on voyageait dans les Balkans. Et on s'est vite retrouvé à trois en Turquie. Et à partir de la Turquie, on s'est séparé du premier que j'avais rencontré. Et on a continué tout le voyage, donc les huit autres mois, juste tous les deux. C'est pour ça que quand je résume, enfin c'est compliqué, mais quand je résume, je préfère résumer en disant qu'on était deux. Mais en fait, on est parti à trois. On s'est séparé avec un parce que chacun sa philosophie du voyage, quoi. Et avec l'autre, ça avait bien collé. On avait la même philosophie, le même besoin d'avoir quelqu'un, et puis le même objectif fort. Il se dit, on va en Australie, et puis voilà. Et puis sur l'échelle d'un an. Donc finalement, les deux réponses, quoi. Avec un, on s'est séparé, puis avec l'autre, on est resté. Ça l'a bien fait. Cependant, au bout de 6 mois de voyage ou 7 mois, on a proposé de faire notre première séparation. On a fait une semaine, enfin, j'ai proposé. Moi, j'ai envie de rester un jour de plus là dans cette ville, j'aime bien. Et ben, si on se séparait et on se retrouve une semaine dans ce village là-bas, et on a fait ça, et ça faisait du bien, c'est génial en fait. Et quand je rencontre des gens, surtout des copains qui partent à deux ou à trois, je conseille de prévoir de se séparer. Pendant un moment, parce que, enfin, comme tout, quoi, on en a forcément marre des petites habitudes du quotidien, du 24 sur 24, Et se séparer, ça fait vachement du... Ah ouais, bah ouais, je vous ai récupéré.
Ok.
Je sais pas de quel côté ça a coupé.
Ouais, je sais pas.
Bon, vous m'avez loupé à quel moment?
Bah, tu nous disais que ça faisait vachement du bien de se
Ouais.
séparer, en fait.
Ouais, de se séparer et de se retrouver aussi, du coup. T'es super
Ouais.
content de retrouver ton copain d'une semaine. Ah, moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Mais
Ah.
ouais, ça libère, enfin, tu te retrouves tout seul. Puis il y en a toujours un qui attend l'autre, que ce soit le matin pour partir ou sur la route. Enfin, toujours un qui a plus envie de faire un peu quelque chose, plus que l'autre. Et ça fait du bien, ça libère. Et du coup, on a répété ça, on a fait 3 fois comme ça, une semaine de séparation. C'est quelque chose que je recommande. Pour n'importe qui part à plusieurs. Après, un couple, je sais pas, je suis jamais parti en couple. Et comment c'est, si c'est plus ou moins facile de se séparer quand on est en couple. Mais en tout cas, entre amis, ça me semble presque nécessaire, quoi.
D'accord.
D'accord.
Merci pour ce conseil.
Ouais, merci. Et finalement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut trouver un compagnon sur un site de petites annonces comme ça? Tu lui conseillerais de voir quoi, de poser quoi comme question pour être sûr de partir avec la bonne personne?
C'est une question qu'on m'avait jamais posée. Déjà, non, je sais pas. Faut être d'accord sur le mode de voyage. À minima, c'est-à-dire est-ce qu'on fait tout en camping ou est-ce que c'est quelqu'un qui a plus envie de confort et d'hôtel ou enfin ouais, il y a cette vision-là qui est essentielle. Les pays qu'on veut visiter, mais ça a jamais trop été un problème parce qu'on est souvent, enfin dans notre cas, on était ouvert à visiter n'importe quel pays. Hein, on est là pour découvrir n'importe quoi. Se rencontrer, évidemment. Ah ouais, si, ne pas se mettre la pression, ne pas qu'il y ait trop d'engagement trop fort à se dire on fait le voyage ensemble pendant un an, mais plus se le dire en mode on se donne 2 mois au moins ensemble, et puis après on se fait une remise en question, est-ce que c'était bien ou pas bien, enfin est-ce que voilà. Pour pas que s'il doit y avoir une séparation, que ce soit trop dramatique. Parce
Ouais.
que non, c'est difficile de s'entendre avec quelqu'un. Voilà.
Ouais, mais
Ouais,
c'est
non,
déjà
mais
pas
c'est
mal.
des
Ouais.
bons conseils. C'est pas forcément le genre de choses auxquelles on penserait
Bah.
de premier abord.
Non, c'est vrai. Enfin, quelque chose de naturel, on pourrait se dire, on essaye de faire un petit voyage ensemble de 3-4 jours, c'est ce que j'avais fait avec les autres, mais enfin avec le premier, mais celui avec qui on s'est séparé, c'est avec lui que j'avais fait une semaine de voyage, et l'autre avec qui je suis resté, on n'a pas eu le temps de faire une semaine de voyage ensemble, mais je suis resté avec lui, donc
Oui.
et puis on se découvre, enfin ouais, non, non, c'est
Bon, on ne peut pas tout prévoir à l'avance, quoi. Enfin,
oui.
faut juste vérifier déjà les grands axes.
Ouais, c'est ça, c'est
Bon.
ça. Oui, si c'est quelqu'un de compatible avec soi, ça se voit directement. Et en fait, j'ai dû rencontrer peut-être, je sais pas, 6 ou 7 personnes avant quand même. Déjà rien qu'en message, peut-être virer plein de gens. Enfin, c'était il y a des choses évidentes. Tu sens que ça va pas coller. Et puis certains, tu les rencontres. Mais non, enfin, en tout cas pour un voyage d'un an, je pense c'est très rare de trouver quelqu'un qui colle, et ça m'est arrivé. C'est bien.
Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que passer 1 an avec une personne qu'on connaissait pas,
Ouais, c'est clair.
c'est pas évident à imaginer, quoi.
Non, ouais, c'est ça.
C'est
Je sais
pour
même
ça
pas
qu'on est
comment
déjà
j'ai pu
assez
le faire, en
intrigués, en
fait.
fait. Mais c'est bien que t'aies pu, bah finalement t'as appris à connaître l'autre compagnon, et là ça marchait bien, quoi. Donc bon, même en essayant de cerner un peu les choses, c'est pas facile de tomber juste. Donc ton conseil, je pense, de pas se mettre la pression et de se dire on en
Ouais,
fait
c'est
au moins
surtout
une
ça.
partie, je pense que c'est un
Ouais.
conseil raisonnable, parce que ça évite de trouver ça dramatique, comme tu disais, si jamais ça échoue, en fait.
Exact. Ça, et faire des, et prévoir des séparations d'avance. Enfin, d'une semaine.
Pour se laisser respirer, quoi.
Ouais,
Ouais,
exact.
d'accord. Et les autres voyages, alors là tu disais France, Maroc et Amérique latine, et ça tu les as fait tout seul du coup?
Oui.
D'accord.
Bah, le premier voyage m'a fait me sentir à l'aise en me disant, bah, enfin, avant ce premier voyage, c'était inconcevable pour moi de partir tout seul. C'était inconcevable. C'est vraiment pour ça que je suis parti avec des gens. Et puis c'est ce voyage qui m'a appris que, et ces petites séparations qui m'ont montré, bah, une semaine tout seul, ça va, tu gères, c'est chouette. Enfin, bon, et puis j'ai sûrement aussi pris confiance. L'expérience du voyage, quoi. Ça faisait quand même 6 mois de, ouais, 6 mois d'expérience de voyage. Je me sentais bien voyageur. Il n'y avait pas de problème. Donc, ouais, ça m'a apporté l'expérience et la confiance. Donc, le deuxième, j'ai dit, je tente 2 mois tout seul.
D'accord.
Ouais.
Et tu as observé une différence de style marquée? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté, par exemple, de plus d'être tout seul ou de moins, justement? Enfin.
Tout seul, évidemment, on fait ce qu'on veut. On va un peu plus vite. Les expériences, toutes les expériences sont plus fortes, plus marquantes, parce qu'on est tout seul, parce qu'on les a vécues tout seul. Et on est fier de soi parce que c'est toi qui l'as fait. Tout seul, tout fait plus peur. On ose moins faire de choses tout seul. Je regrette souvent d'avoir un enfin, par exemple, si je prends mon dernier voyage en Amérique du Sud, au début du voyage, j'étais un peu moins à l'aise et tu cherches plus la sécurité. Et tu vas moins vers l'aventure. Donc j'ai pris peut-être plus des routes asphaltées, des routes principales, et puis petit à petit je me suis libéré, j'ai pris des petites routes, des petits chemins, voilà. Mais c'est une aventure à tenter. Et si, alors que si j'étais avec un copain, bah, tout de suite tu dis, oh, enfin, tu te montes à tous les deux, attends, on fait l'aventure, on fait tous les deux, enfin, t'es rassuré de tout. Un camping sauvage à deux, c'est fun, c'est marrant, tu fais un feu, tu rigoles, tu fais un jeu, je sais pas, moi, tu rigoles à deux, tu fais n'importe quoi, ou tu vas plus facilement aller rencontrer les locaux, et puis si toi t'oses pas, c'est ton copain qui va plutôt oser, qui dit, attends, parce qu'il faut quand même un peu de motivation et d'énergie pour aller, enfin, pas sonner chez des gens, mais pour aller tenter l'hospitalité, enfin, quand on te l'offre pas, hein, spontanément, d'y aller, alors qu'en fait, enfin, c'est ça qui est le plus beau, hein. C'est quand tu vas rencontrer les gens. Donc ça, c'est des choses que tu oses plus à deux et il faut plus d'énergie pour le faire quand tu es tout seul. Et donc, je te disais, un camping, ouais, aussi dire, viens, on va camper là, on s'en fout, dans un petit coin de nature, c'est marrant, c'est fun. Tout seul, c'est pas fun, camper tout seul, mais c'est vachement plus intense. Alors, je l'ai écrit sur mon blog un peu à droite à gauche. Si t'es un peu romantique ou poétique, tu peux trouver ça très beau. Mais ça fait peur. Enfin, je sais pas si vous avez déjà campé tout seul, enfin, camping sauvage, hein, tu te montes à la tête de tout. Est-ce qu'il va y avoir un animal qui va m'emmerder? Est-ce que c'est les humains? Si une voiture qui passe, tu dis, attends, qu'elle continue de passer, j'ai pas envie qu'elle s'arrête. Si tu t'entends une voiture sur la route, si je me dis, est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va y avoir l'orage, un coup d'éclair sur ma tente? C'est des tas de trucs que tu te montes à la tête quand t'es tout seul. Quand t'es à deux, t'es super rassuré. T'es tout seul, dis, ouais, faire un feu, non, il y a des gens qui vont le voir. Bon, quand t'es à deux, c'est pas grave, t'es rassuré. Mais c'est plus intense.
D'accord.
C'est plus, ouais, plus romantique, plus intense. Et puis le lendemain, tu dis, ouais, enfin, t'es fier de toi aussi, c'est moi qui l'ai fait. J'apprécie le silence. Enfin, à la fois, c'est ça qui fait peur, hein, justement, le silence. Mais c'est ça qui est beau. Voilà, c'est beau. Et puis la vraie solitude, quoi, attends, le vrai silence autour de toi, la vraie solitude, c'est pas fun, mais c'est beau. C'est quelque chose à vivre. Je pense, je recommande à tout le monde de le faire au moins une fois, quoi. Un camping tout seul. Après la route, tout seul, ça va. Parce que de toute façon, faut juste avancer, donc ça va. Les galères tout seul, c'est plus dur, effectivement, mais c'est plus intense. Quand tu t'en sors, t'es plus fier de toi. Donc, je préfère pas l'un plutôt que l'autre. Je suis plus à l'aise tout seul maintenant. Je sais pas, tout seul c'est plus intense, et à deux t'es plus fort, tu vas plus loin, tu oses plus, tu vis plus, peut-être plus de choses, mais tout seul c'est plus intense.
D'accord, ok.
Si ça peut conclure.
Ouais,
Il y
ça
a
donne un
beaucoup de gens qui
ressenti, je
partent,
pense.
enfin vous avez dû rencontrer beaucoup de gens qui partent seuls ou qu'on te dit ouais tu rencontres plus quand t'es tout seul, c'est une vérité, hein. Chaque expérience est beaucoup plus intense. Parce que t'es plus vulnérable. Alors, si tu rencontres quelqu'un qui t'offre l'hospitalité alors que tu te sentais vulnérable, c'est plus intense. Hein, voilà. Voilà. Faudra couper dans ce que je dis,
Ok,
mais
non, 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 c'est
c'était
très
retire le
intéressant.
meilleur.
C'est très intéressant parce que nous, déjà, on n'a pas cette expérience-là. Et puis, ça, moi, ça résonne un peu avec ce que d'autres gens ont pu me dire ou de ce que j'ai pu lire. Sauf que là, il y avait vraiment une explication, même plus viscérale, quoi, de ce qui se passe, quoi. Donc, c'est intéressant, je trouve.
On avait
Merci.
même aussi bien ressenti un peu
Ouais.
la différence, je pense.
Là, je vais aller camper dehors, là, ce soir, pour tester.
Et du coup, quand tu voyages, c'est quoi ton rythme de croisière? C'est en fonction du nombre de kilomètres, des horaires? Qu'est-ce que tu aimes faire en général?
Mes voyages, je les conçois déjà, enfin à grande échelle, d'étape en étape, de grande ville en grande ville. Bon, je pense que tout le monde le fait, enfin de ville en ville en tout cas. Je pars d'une ville et puis je me dis, je vise celle-là, je sais que j'y serai dans 6-7 jours. Donc ça fait des. Et puis je me repose 2-3 jours. Voilà. Donc généralement, les étapes, ça fait ça. 6-7 jours de vélo, 2-3 jours de repos dans une ville. Déjà parce que c'est important d'avancer de petits objectifs en petits objectifs. Et puis là aussi encore plus quand tu es tout seul, je pense que c'est important d'avoir un objectif, quoi, pour te motiver, hein, tout simplement. Et puis plus tu te rapproches de la ville dans laquelle tu sais que tu vas te reposer, plus t'es content. Enfin, c'est pour ça que tu avances, quoi. Donc ça, c'est le rythme à grande échelle. Ensuite, à la journée, donc si on parle d'une journée de vélo, ça dépend. Enfin, ça dépend du contexte. Par exemple, non, attends, je vais te donner une journée, une journée normale. Je sais pas quoi. Moi, il fait jour à 7 heures. Ça, il fait nuit à 20 heures la température est bonne et normale et il pleut pas trop. Généralement, je roule 6 heures, 5, entre 4 et 6 heures de vélo. Donc, c'est en temps de vélo pur. Et puis, par coup de 1 heure, tu fais une petite vingtaine de kilomètres, tu fais une pause, tu refais une trentaine, vingtaine de kilomètres, tu fais la pause midi, donc une plus grande pause. Ensuite, tu redémarres. Encore une vingtaine de kilomètres, et puis une pause, une trentaine de kilomètres, et là il commence à être temps de chercher où est-ce que tu vas passer la nuit. Tu as fait 80, 100 km dans la journée comme ça. Ça, c'est la journée de vélo. Et puis la nuit, soit camping, selon le contexte, hein, soit hospitalité, soit ce que j'ai appelé semi-hospitalité, c'est-à-dire tu repères une cabane de jardin dans le jardin des gens et tu dis ah, est-ce que je peux pas me mettre là? Et tu rentres pas, tu t'imposes pas chez les gens, mais tu demandes à être dans une petite cabane dans leur garage. Enfin, voilà, c'est rassurant. Donc ça te donne le rythme. Mais je te disais, ça dépend. Voilà, t'as des pays chauds. Quand il fait très chaud, mon rythme, ça a pu être plutôt se lever à 5 heures, démarrer à 6 heures, s'arrêter à 10h30. Et de là, parce que il fait beaucoup trop chaud, il faut que tu trouves de l'ombre. Donc la pause midi devient beaucoup plus importante là. 10h30 et tu vas repartir à 16h. Donc dans le sud de l'Espagne en été et Maroc en août, c'était ce rythme-là que j'avais.
D'accord.
Tu vois, ça change forcément le rythme. Et puis ensuite, tu peux peut-être rouler de 17h à 20h pour faire ta section de l'après-midi. J'ai découvert un nouveau rythme aussi au Pérou. Là, comme j'ai roulé en février, c'était la saison des pluies, eh ben, il pleuvait tous les après-midi. Donc, bon, t'as pas envie d'être sous la pluie tous les jours, surtout si tu sais qu'elle va arriver. Donc, assez naturellement, j'ai pris un rythme qui était je m'arrête à 14h. Mais pour ça, j'aime bien quand même faire mes 80 km, enfin, rouler, quoi, 60-100 km, faire une journée. Donc, je me levais à 5h du matin, parti à 6h. Je faisais que des petites pauses, mais pas de vraies pauses midi. Et puis à 14h, j'avais fait ma journée, et puis je pouvais me poser quelque part, et puis la pluie pouvait arriver, c'était pas grave. Donc, conclusion, la journée type, tu la vois. Dans mon cas, c'est entre 4 et 6 heures de vélo. Des fois, j'ai poussé 7 à 8. Ça, c'est pour moi, c'est poussé, ça, 7, donc de pédalage, hein. Et puis réparti dans le temps selon les conditions météo du moment, du pays. Le moment du midi peut être un vrai moment important, c'est-à-dire où tu vas t'approprier un endroit parce que tu vas y rester 4 heures et faire une grosse sieste. Donc un moment marquant, quoi, puisque tu vas peut-être rencontrer des gens, tu vas t'arrêter dans un village ou tu vas profiter d'un coin de nature, mais tu vas vraiment te l'approprier parce que tu vas y rester 4 heures. Ou il peut être inexistant parce que tu fais pas de vraies pauses, tu fais que des petites pauses. Et le moment du soir est toujours de toute façon important. C'est quelque chose que tu te rappropries puisque tu y as dormi. Pour moi, oui, le spot, l'endroit où tu restes le soir, c'est la moitié du voyage. Parce que, enfin, pour moi, c'est la manière dont tu t'appropries un paysage ou un pays, c'est là où enfin, c'est quand tu dors, quand tu passes la nuit. Sinon, tu fais que passer, mais quand tu as passé la nuit quelque part, je sais pas, tu vois, tu te l'es approprié, quoi. Ah, tu as dormi. Voilà.
Donc on reprend avec Pierre. Hier soir on a eu un petit problème technique et donc voilà la deuxième partie de l'interview. Alors Pierre, on voulait te poser maintenant des questions sur ton matériel, ton équipement de voyage à vélo. Et par exemple, bah déjà quel vélo tu as? Et puis après qu'est-ce que tu prends? Combien de sacoches ou peut-être une remorque? Quel temps tu prends, quel réchaud, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipement, s'il te plaît?
Alors, je me suis. Enfin, c'est la question du choix du matériel aussi, du coup. Tu vois. Pourquoi tu l'as, enfin, ce que j'ai et pourquoi je l'ai. Donc, je l'ai choisi pour mon grand voyage de 2012, où j'étais un néophyte du voyage à vélo. Donc, j'avais lu des bouquins, enfin, un bouquin qui m'a. Parce que tu vois, tu essaies de te préparer, puis le matos, c'est important. Et puis, donc, il m'avait inspiré enfin, sur les vélos. Et puis, mais je suis allé voir les mecs chez Rando Cycle. Ça doit être le spécialiste du voyage à vélo à Paris. Je pense qu'il a. Son nom doit pas mal tourner parce qu'il a dû faire pas mal de vélos de voyageurs. Il m'avait bien conseillé, donc je me suis aussi surtout laissé porter par le choix du professionnel, quoi. J'ai jamais été expert du matériel de voyage en vélo. J'ai quand même choisi donc de prendre un vrai vélo de voyage, d'acheter un vélo spécifique pour le voyage, donc avec le budget. Donc mon vélo coûtait 1 500 €. C'est ce qu'on appelle une randonneuse. Un mélange, enfin c'est un VTT, pour moi c'est comme un VTT, mais solide, quoi. Avec toutes les pièces sont solides. Le cadre Surly, Long Haul Trucker Surly, la moitié des voyageurs qu'on croise ont ça. Pardon?
Je dis, ouais, c'est un modèle très apprécié.
Ouais. Même que, enfin, sur la route, comme j'ai croisé pas mal de voyageurs. En Amérique du Sud, ouais, un sur deux, ils ont le Surly. On est copains de Surly, quoi. Donc ça, puis après, bon, bah, sur le vélo, je sais plus vous dire quel groupe j'ai, mais bon, c'est du solide, quoi. Et les pneus Schwalbe Marathon, et ça pareil, tout le monde les a. Vraiment, j'ai rarement croisé des gens qui avaient pas ça, quoi. Donc mon matériel, donc c'est la randonneuse classique avec sacoche, avec les quatre sacoches. Et donc, enfin, oui, non, je me suis quand même porté sur le choix des sacoches plutôt que la remorque, et je m'étais quand même beaucoup posé la question. Il m'a semblé que la remorque, c'est plus adapté pour quelqu'un qui n'a pas un vélo adapté au voyage, qui a son vieux vélo, quoi, et justement, pour pas l'abîmer, pour pas mettre trop de poids dessus, c'est bien d'avoir une remorque. Je crois. Mais je peux pas dire grand-chose de la remorque puisque j'ai pas essayé, donc j'ai pas la comparaison pour dire l'un est mieux que l'autre. Mais bon, on le sait, il y a des avantages dans l'un et l'avantage dans l'autre. Ça, on le sait.
Éventuellement
Donc
de la
le
sacoche.
vélo, ouais.
Quelle est ta marque de sacoche? Tu as des Heartlib ou...
Les Heartlib, ouais. Alors pareil, je suis allé chez le voisin de Randocycle qui est Rando campeur, je sais plus quoi, enfin qui a tout le matériel de voyage à vélo. Si je me suis laissé guider aussi, mais globalement, j'ai les Heartlib, ouais. Ouais, qui ont tenu la route, pas de souci. Et donc, il y a des gens qui partent avec un vélo pas spécialisé et pas cher, et c'est pas un mauvais choix non plus, hein. Mais enfin, surtout quand on n'a pas le budget, en fait. Et ça prouve qu'on peut partir un an de voyage avec un vélo à 200 €. Ça marche, quoi. Je pense que ces gens-là, ils ont plus de problèmes techniques. Après, c'est une aventure aussi, les problèmes techniques. Le cadre qui pète, on doit aller faire réparer. Fin. Mais donc, en ayant mis le budget, j'ai jamais eu à me soucier de problèmes techniques, des gros, quoi. J'ai roulé 20 000 km, non, 25 000 maintenant. J'ai jamais changé un rayon de ma vie. Je sais pas faire. Je l'ai pas fait. J'ai dû changer. Enfin, les gros changements, je les ai fait faire par un professionnel. Donc après, je démonte mon vélo pour le mettre dans l'avion. Tu mets des coups de clé par-ci par-là, mais rien de très très technique. J'ai dû faire. Voilà.
Et puis, ouais, on disait en termes de tente, est-ce que tu as une tente que tu as choisie pour certaines raisons? Et puis, est-ce qu'elle te convient? Est-ce que tu en as changé?
Ouais, je l'ai choisi pareil, je suis allé au vieux campeur et je me suis laissé guider par le professionnel qui m'a donné une bonne tente. Big Agnès, c'est une marque américaine. Deux places, ça me semble bien, deux places. 1 kg, j'avais insisté sur le faible poids. Et ben, je l'adore. Pareil, elle a fait, mais quoi, ça fait 1 an et 6 mois de voyage. Bon, et d'autres, hein, et du coup, elle a 2012, elle a 6 ans. Et ben, ouais, génial, non, toujours là. Toujours là, elle a jamais cassé, pas de problème.
Chez Big Agnès, c'est la Fly Creek ou c'est...
Exact, ouais, UL2, Flag Creed
Ouais,
pour
c'est
deux
une
personnes.
trailer, ouais.
Donc, ouais, ben, je la recommande. Elle tient la route, elle est toujours là, toujours avec moi. Super. Légère, facile à monter, j'adore.
C'est une autoportante, il me semble, ouais.
Oui. Ça, c'est important. J'ai passé pas mal de régions dans lesquelles tu as juste besoin de la tente, ce que j'appelle en mode moustiquaire. Tu n'as pas besoin de tout mettre. Tu poses ça dans le garage. Si ça m'est arrivé de dormir dans des garages, n'importe où, sous un temple ou j'en sais rien, mais tu mets ta tente quand même pour les moustiques. Et donc, tu mets juste en mode autoportant. Et ça, quand il fait assez chaud, c'est très pratique. Ça, c'est important. J'ai un réchaud. Oublié, MSR, un même modèle que tout le monde a, une centaine d'euros. Et
Multicombustible ou
à essence, à
à
essence.
essence.
Ouais. Et plus, hein?
Comment dire, l'essence, ça t'a permis. Enfin, est-ce que tu as vu la différence avec un autre combustible de mieux trouver peut-être à recharger ou.
J'ai pas, bah, je pense pour comparer au gaz, oui, je pense pas que ce soit une bonne idée le gaz, parce qu'il faut le recharger et qu'il y en a pas, il y en a pas dans tous les pays, sauf si on fait un voyage. Dans des pays où on sait qu'il y aura des recharges, hein, mais si on est parti pour 1 an autour du monde, vaut mieux pas. L'essence, il y en a partout. J'ai rencontré un mec en Argentine, là, il avait le réchaud à alcool. J'ai trouvé ça pas mal, parce qu'il était moins encombrant que le mien. Le problème du mien, c'est quand même l'encombrement, et puis le poids de, faut avoir un litre, un demi-litre d'essence quand même, donc c'est un poids quand même supplémentaire. Il m'a posé des problèmes techniques aussi, parce qu'il s'est pété, donc c'est pas forcément un choix que je referais. En fait, je me pose beaucoup la question, partir sans réchaud. Tu fais que des repas froids. Tu prends des pâtes toutes prêtes, que tu les plonges juste dans l'eau. Voilà, si tu veux t'alléger, on pense qu'on peut se passer du réchaud. Si tu fais des sandwichs, ou si t'es dans des pays pas chers où tu peux faire des restos tout le temps.
De gens qui se posaient des questions, je pense. Moi, j'ai vu des messages, je pense, sur des forums de gens qui disaient, est-ce que c'est possible de partir sans réchaud?
Ouais.
Il y avait des expériences, du coup.
Ouais, parce que ça a l'air d'être le truc tellement obligatoire, en fait. Quand on part en voyage, il y a le réchaud. Et je me suis rendu compte que ça l'est pas du tout, non. C'est pas une obligation, c'est quand même un poids. J'étais content quand il faisait très froid de me réchauffer avec un café chaud, me réchauffer les mains, effectivement. Mais... Donc je pense que ça dépend encore de la durée du voyage et de la géographie. Si on est dans des pays chauds, des pays froids, ouais, je pense qu'il fait froid, qu'on est en hiver, c'est quand même bien de pouvoir... Et qu'on fait du camping sauvage, on est quand même content de l'avoir. Mais on peut s'en passer, c'est sûr. Réchaud.
Les conversations là-dessus, parce que ouais, c'est intéressant de voir quel régime alimentaire les gens peuvent avoir.
Ouais.
Éventuellement basé peut-être sur plus de produits frais. C'est des choses...
Ouais. Tu peux te faire du sandwich le soir, mais si t'es gourmet, si t'aimes cuisiner, je suis sûr qu'il faut un réchaud. Moi, je suis pas gourmet et je suis pas difficile, et il faut juste que je remplisse mon ventre, quoi. Ouais. Je prends plaisir dans tous les cas. Donc, j'ai la sacoche arrière droite qui est pour les habits. Elle est remplie d'habits. C'est ça, plus la toilette. J'ai arrière gauche avec le duvet, le matelas gonflable Thermorest qui se gonfle, le petit modèle, celui qui s'arrête au niveau des jambes, des fesses. Je trouve ça suffit. Et puis le matériel de réparation, mais j'en ai pas tant que ça, le matériel de réparation, puisque en fait juste les clés, de quoi réparer une crevaison. Je me suis allégé par rapport à ça, en tout cas, au fur et à mesure des voyages. La sacoche avant gauche, c'est pour appareil photo, et du coup drone, puisque j'avais sur le dernier voyage, j'ai troqué l'appareil photo pour le drone, et puis mes papiers, et quelques, je ne sais plus, j'avais mes gants, et puis l'autre, c'est bouffe plus réchaud. Et l'eau, je la mets, la tente, je la mets sur le porte-bagages, donc entre les deux sacoches. La guitare, quand j'en avais une. Et l'eau, pareil, sur le porte-bagages. Voilà.
D'accord, ok.
Et donc, je me suis allégé par rapport à mes premiers voyages. Tu te rends compte qu'il y a plein de choses dont tu ne te sers pas. Et là, sur mon dernier, j'étais assez optimal. Il me semble que j'étais très optimal en termes d'habits. La tente, elle est légère, tout ça. Et puis, on fait toujours le choix de est-ce qu'on prend un appareil photo. Donc, sur ce coup-là, j'ai pris un drone.
Très bien. Pour le matériel, ça donne une bonne idée.
Ouais.
Tu penses que tu pèses combien, là, vélo, matos, ou juste le matériel là?
Le vélo, il fait 17. Les sacoches, elles doivent faire 20. Et selon la bouffe et l'eau, 25, 20, 30, 5, 20. Et j'ai croisé... Hein ?
Et la tente de 1 kg, c'est
rien. Et ouais, dont la tente de 1 kg, c'est pas mal. Ouais. J'ai croisé pas mal de gens là, en Amérique du Sud, au niveau de la Bolivie, Argentine. Et j'ai trouvé que j'étais parmi les plus légers. J'ai trouvé qu'il y en avait. Ils ont les 4 sacoches et ils ont aussi un gros sac par-dessus. Plein de choses, et je me dis, mais sachant que moi tout rentre dans mes sacoches, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir dans ce gros sac énorme? Et j'ai de la place encore dans mes sacoches. Il m'a semblé que j'étais parmi les plus légers. Je me demande, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien emporter, hein? Certains.
On verra dans les autres interviews s'il y a des gens qui
Ouais.
trimballent 40 kilos de bagages.
Ouais. Et la sacoche avant, tout le, je sais pas, le petit livre du moment, les papiers, l'argent, tout mes clés, ma clé Allen, voilà. Il y a la sacoche avant qui est remplie quand même.
En voyage, c'est quoi ton budget par jour en général?
Dans le voyage en 2012, on a fait les comptes à la fin. C'est plus après qu'on s'en est rendu compte, puisqu'on n'avait pas de budget, mais on voyageait assez pauvrement, sans se refuser un hôtel de temps en temps, quoi. On était à 500 euros par mois. On était à 400-500 euros par mois.
D'accord, ok.
Pour tout le monde, enfin,
Ouais,
chacun
par
ou
personne.
par
Par
personne.
personne,
Une quinzaine d'euros par jour, alors.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est quand tu fais du vélo. Je vous ai expliqué que je concevais mon voyage d'étape en étape, de grande ville en grande ville. Et quand tu fais du voyage, il y a des jours, tu dépenses rien, ou sinon peut-être 1 ou 2 euros de bouffe. Enfin, il peut se passer une semaine justement comme ça où tu dépenses rien, et puis après tu arrives en ville, tu te reposes, tu te payes un hôtel. D'un coup, tu es un backpacker, donc tu payes un hôtel, tu vas faire l'attraction du coin, tu te payes des restaurants plus chers, parce que tu as la flemme de te faire de la cuisine. Enfin, bon. Je pense que je voyage. Je pourrais voyager bien plus pauvrement. Voilà, j'avais pas de budget. J'étais pas très très serré au niveau budget. Tu dois pouvoir encore faire encore moins, notamment quand tu es posé dans les villes, tu prends l'auberge la moins chère possible, ou tu fais le camping le plus pourri, et tu te fais à manger, hein. Oui, bien sûr, oui, tu fais du couchsurfing New Hampshire. J'en ai fait beaucoup en 2012. Ouais, y a moyen d'être bien moins cher que moi.
Ouais, et puis 15 euros par jour, c'est quand même pas extravagant non plus. Enfin,
Ouais, c'est clair.
c'est pas
Ouais.
mal.
Ouais.
Mais oui, mais il y en a
Enfin,
qui
non,
voyagent.
ça comprenait les billets de train
Ah oui, en plus, ouais, c'est pas.
éventuels aussi, hein, ça. C'était tout ce qui n'était pas matériel que tu as acheté avant, ni le billet d'avion de retour, quoi.
Bon, on te
Ok.
comprend, tu vois, nous en ville, en général, on s'autorise largement d'aller voir des choses qu'on a envie, s'il y a un musée qui nous plaît. On se fait un resto, enfin, je pense qu'il faut quand même, bon, à moins que ce soit un objectif d'être extrêmement minimaliste, faut quand même pas s'empêcher de tout juste parce qu'on fait un voyage à vélo.
Mais ça dépend du budget. Il y a vraiment des gens qui ont pas un rond et ils décident de partir. Et
Mais ils ont raison du coup.
c'est tant mieux, ils ont raison. Ouais. Et t'en as aussi beaucoup qui pensent donc ont pas voyagé et qui pensent justement qu'il faut beaucoup alors que. Enfin, ils pensent qu'ils n'ont pas assez, alors qu'ils pourraient, en voyageant très très pauvrement, ils pourraient le faire, puisque j'en ai rencontré beaucoup.
Connu un qui voyageait pour 5 euros par jour, par exemple. On se disait là, ça lui coûte pas cher, quoi.
Ouais, c'est peut-être le minimum, c'est peut-être un truc comme ça, effectivement.
Ça donne espoir pour les gens qui auraient pas beaucoup de ressources. Et puis, comme tu disais tout à
C'est
l'heure,
ça.
avec le matériel, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de partir avec du matériel flambant neuf, quoi. Enfin,
Ouais.
si, quoi, on se débrouille toujours, hein,
Exactement. Il y a trop de lumière là. Je décale. Voilà.
Et donc, tu me disais que ton itinéraire, tu allais de ville en ville.
Ouais.
En ville, comment est-ce que tu dessinais ton itinéraire? Est-ce que tu avais un truc un peu prévu à l'avance ou c'était au jour le jour?
De proche en proche. Ça me semble bien d'avoir un objectif principal quand même. Là, j'ai fait Lima Santiago. C'était bien de savoir que j'allais à Santiago. Puis ensuite, non, ça se dessine vraiment petit à petit à partir de là. Je suis débarqué à Lima, je savais pas par quelle route j'irais, quoi. Quand j'ai débarqué, j'ai dit bon, maintenant je m'y colle par où je passe. Et puis là, tu choisis une route en fonction de tes envies. J'avais le choix entre partir vers la plage et puis rejoindre la montagne une semaine après, ou filer directement dans la montagne. J'ai hésité pendant un jour, et puis j'étais quand même très attiré par la montagne, en découdre avec ses cols à 4000 mètres. Et en plus, j'ai fini de me convaincre en regardant la carte des vents. Je voyais que la route par la plage, c'était plat, mais apparemment j'avais un vent contraire, un vent de face, donc ça a fini de me convaincre. Donc je me suis donné une grande étape, Cusco à, je sais plus, de 1000-1500 km plus loin. Donc ça, c'est une étape à moyenne échelle, et puis après c'est au jour le jour quand même, à peu près. Ouais.
Avec des cartes routières, du coup.
Non, en 2012, grand voyage avec les cartes routières. Oui, donc à petite échelle en Europe, et puis plus ça va, plus de toute façon tu peux pas trouver des cartes à petite échelle. Donc j'avais la carte à l'échelle du pays, mais ça suffit parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Donc j'ai fait que des cartes. Et là, sur mon donc Paris-Maroc, j'ai fait que la carte. Et là, sur ce voyage, ben, j'avais acheté mes cartes. Là, donc les 3 mois Amérique du Sud, je les avais achetées, mes cartes. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas assez précis, parce que j'avais envie de prendre les plus petites routes, les pistes. Et donc ça va pour les routes principales, mais enfin, c'était à l'échelle du pays, hein, mes cartes. Et tu pouvais, enfin, ils te montraient une piste, une route qui avait l'air en piste, mais en fait, il y en avait 10 et qui étaient du même niveau. Donc c'était vraiment pas bien. Du coup, je suis parti sur Google Maps. Du coup, ouais, je suis parti sur Google Maps, sur tout mon voyage là. Donc avec le GPS, ça aide quand même, enfin de mon téléphone. Et donc il y a toutes les routes, elles sont de temps en temps. J'ai prouvé qu'il y en a une qui n'existait pas, enfin où il manquait une route quand même. Des fois, c'est pas complètement parfait. Et surtout en mode relief. Et donc tu vois tout le relief de la carte, tu vois les montagnes que tu peux voir. Enfin ça aide vachement ça. Et il y a aussi les courbes de niveau sur Google Maps. Et on peut le charger sur son téléphone en mode hors connexion. Tu peux charger le bout de zone que tu vas traverser dans les 5 prochains jours. Donc c'était vraiment, enfin c'est à refaire. Toi, j'ai changé. Je suis parti. Je jurais que par les cartes. Et là, maintenant, je jure que par Google Maps. Et je pense qu'avoir des cartes à grande échelle, ça a pu m'empêcher en 2012 de faire des routes plus petites, plus belles, des détours, plus nature. J'ai fait globalement des routes assez principales.
D'accord,
D'accord,
ouais. Ok, ouais, c'est intéressant comme conseil, ça. Parce que nous, on change encore un
ouais,
petit peu
ça
selon
dépend.
les voyages, donc
Ouais.
intéressant d'essayer des nouveaux moyens aussi.
Ouais. Mais si j'avais la meilleure carte, enfin, je préfère quand même que ce soit physique et je préfère le papier. Enfin, si ma carte était bonne et si j'en trouvais des précises, je les achèterais pour pouvoir le voir loin. Là, si tu étais bloqué sur l'écran de ton téléphone quand même, tu te rends moins compte des échelles parce que tu zoomes, tu dézoomes, sans avoir une idée d'une échelle, et ça change tout le temps et c'est quand même vachement. J'adore quand même. Déjà, j'adore les cartes. Encore plus quand tu es tout seul, tu fais une pause, tu lis ta carte, tu regardes tous les chemins possibles, puis jusqu'à tous les moindres détails, jusqu'à te permettre de décider de choisir une route plutôt qu'une autre. Tu regardes ce qui va t'arriver. Enfin, c'est génial et c'est virtuel. Enfin, tu vois ta route de manière virtuelle et puis bah, 3 jours plus tard, tu l'as faite, quoi. Donc tu revois ta carte, c'est plus la même chose puisque tu l'as faite. Tu sais très bien à quoi ressemble cette route maintenant et les difficultés ou est-ce que ce col, il était plus dur qu'il y paraît ou pas. Enfin, c'est marrant. T'as le côté ce qui est déjà fait, tu connais et puis ce qui est à faire, bah, ça reste le virtuel, le futur, tu sais pas. Tout ça, tout. tout ça est écrit sur ta carte. Tiens, ça me donne l'idée d'un article, tu vois. Je ferai un article sur tous ces concepts-là de les cartes. J'ai fait un article dans mon voyage France-Maroc il y a 2 ans. Je l'avais appelé ma carte, mon doudou. Parce que c'est mon doudou, je l'ai toujours sur moi. À chaque fois que je fais une pause, je la pose et je regarde. C'est mon doudou, tu vois.
Ça fait une bonne transition pour te demander justement si tu peux nous donner ton blog, là où justement les lecteurs pourraient aller retrouver tes voyages.
Eh ben go sur pierrequiroulevoyage.com. Pierre qui roule, voyage tout attaché, voyage au pluriel.com.
De toute façon, on vous met le lien en dessous,
Ouais, on va mettre un lien en
sans
dessous.
souci. Et tu
Ouais.
disais aussi que tu étais dans la musique, et il me semble que tu as
Ouais.
aussi un site pour parler de ça, non?
Ouais, donc pour écouter les musiques que je fais, puisque c'est ma seconde passion, c'est map-composer.com. Et donc, depuis mon site de voyage, j'ai un lien vers le site de musique et vice-versa d'ailleurs, pour connaître les deux facettes de ma vie.
C'est très sympa. Nous, on va s'y balader en tout cas, et on conseille à tout le monde d'y aller parce que du coup, tu as fait des beaux voyages. Je pense que musicalement, il y a des découvertes à faire aussi, donc c'est très
Ouais.
sympa.
Merci, ça me fait plaisir. Et donc, je prévois de faire un mélange des deux, puisque j'ai plein de belles images d'Amérique du Sud, là, et en plus les images de drones. J'ai du boulot, j'ai un film à faire, et j'ai aussi la musique du film à faire. Donc, je vais joindre les deux passions, je vais y arriver, je vais faire ça.
On verra peut-être ça en grand écran en festival, du coup.
Ah ouais, ce serait chouette. Ouais, je vais démarcher avec ce film. Il faut y aller, faut que je m'y mette. J'ai commencé un.
Finir déjà.
Ouais.
Non,
Ouais.
mais ça, c'est bien. Au moins, ça te maintient dans tes voyages.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Super projet, en tout cas. On a hâte de voir ça.
Ouais. Je vous tiendrai au courant. Ben, merci, hein.
Bah du coup, Pierre, on va conclure comme ça, je pense, sur cette interview. On voulait beaucoup te remercier parce que, enfin, toutes tes descriptions et ce que tu nous as raconté, ça nous a vraiment fait voyager, en
Ouais, c'était
fait.
très vivant.
Et ça nous a donné plein de perspectives, même différentes de celles qu'on pouvait avoir. Et vraiment l'envie, là, de repartir pour mettre en application un petit peu,
Ouais, tu parles.
pour tester des points de vue, pour... Voilà, tout simplement, et on a trouvé que c'était vraiment bien décrit et que ça retranscrivait vraiment des sentiments qu'on peut avoir sur la route. Donc merci beaucoup pour ça, c'est super.
Cool, merci.